Vous êtes sur RTL.
Sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Je salue ce moment qui est assez rare pour qu'on puisse le notifier. Benjamin Sportouche, pour la première fois de la saison, nous a rejoint.
Le retour.
C'est un personnage récurrent des auditeurs ont la parole. Généralement, il est d'une prudence extrême, donc il n'ose pas dire ce qu'il ne sait pas. Bonjour, cher ami.
Bonjour.
Bonjour, monsieur Sportouche. Ça nous fait très plaisir. Vous allez pouvoir nous accompagner sur Zemmour. Et on est avec Maël, qui est étudiant à Vitré, en Ille-et-Vilaine. Bonjour, Maël.
Bonjour Pascal.
Est-ce que vous attendiez à un score, faut être prudent, mais en tout cas une montée en puissance d'Éric Zemmour alors qu'il n'est même pas candidat?
Moi je ne m'y attendais pas, mais vous savez, je vais vous dire une phrase, c'est qu'il faut faire toujours attention aux sondages, c'est pas toujours le reflet du terrain.
Bah effectivement, on est prudent, on a été payé pour être prudent. Amandine, le rappel des titres.
Et à la une, ce jeune homme tué par balle en plein jour hier à Cavaillon dans le Vaucluse, dans un quartier connu pour être un point de deal. On en a parlé à plusieurs reprises ces dernières semaines et ces derniers mois. Les habitants sur place se disent particulièrement préoccupés. L'entrée en vigueur de la PMA pour toutes, ça y est, c'est fait. Les décrets d'application de la loi votée fin juin ont été publiés aujourd'hui au journal officiel. Il y a du foot ce soir encore, suite de la Ligue des Champions après la victoire 2-0 hier du PSG face à Manchester City. C'est Lille qui se déplace à Salzbourg, coup d'envoi à 21h et ce sera à suivre en fil rouge toute la soirée sur RTL. Notre météo, Louis Baudin, il pleut mais ça s'arrange dans l'ouest.
Oui exactement, puisque c'est une perturbation qui traverse la France, qui se décale actuellement vers l'est, donc elle va s'étaler cet après-midi des Pyrénées aux frontières de l'est avec des nuages, de la pluie un peu plus soutenue dans le nord-est, un petit peu moins dans le sud. La Méditerranée sera épargnée, le littoral méditerranéen avec l'aide du Mistral et de la Tramontane, et puis après son passage, vous avez raison, les éclaircies vont revenir et sont souvent très belles, avec quand même quelques averses, j'en vois un petit peu là sur la vallée de la Seine et ça devrait se prolonger tout au long de l'après-midi. Le tout avec des températures qui ont tendance à baisser, on sera entre 15 et 19 degrés dans la moitié nord cet après-midi, 19 à 21 dans le sud et encore 25 à 27 degrés près de la Méditerranée, et toujours pour les mêmes, notamment en Corse.
Bon, et pour demain, on continue la règle du un jour sur deux,
voilà.
Il fait beau donc.
Il pleut aujourd'hui, donc il fait beau demain, vous avez raison, avec le retour d'un temps sec et ensoleillé pour tout le monde.
Vous allez être payé un jour sur deux, vous aussi.
Ça. Ouais, bah alors c'est pour ça que je vais remettre beaucoup de pluie à la fin de la semaine, vous allez voir. En tout cas, demain, ça sera sec et ensoleillé, quelques brumes, brouillard le matin. Et ensuite, le soleil s'imposera partout, peut-être quelques nuages près des Pyrénées. Les températures vont encore fléchir, peut-être les premières gelées.
Non.
Oui, comme le ciel sera dégagé. Si.
Et
oui,
c'est bien, non mais l'automne, c'est
bien. Oui. Bah, c'est normal.
Non, mais attendez, on a un week-end pourri, c'est ça?
Oui, hein, c'est vrai. L'après-midi sera
c'est
comme aujourd'hui,
grave.
Puis c'est
on
vrai que la fin de
Louis
semaine.
Baudin.
Ça annonce particulièrement agité, hein, notamment samedi et dimanche, du vent, de la pluie, la neige en montagne. L'automne qui s'avance, quoi.
Et alors?
Ben oui.
C'est beau l'automne, c'est merveilleux l'automne.
Je préviens juste, mais effectivement, c'est un peu normal pour la période.
Attendez, qu'est-ce qui se passe?
Il y a Cyprien Sini qui vient.
Mais pourquoi vous venez nous dire qu'est-ce qui se passe?
Je voulais savoir quel est le temps à Marseille ce week-end, alors.
Beaucoup de pluie, il n'y a pas de jalousie.
Non, c'est vrai. Ce week-end, je vais voir ma famille.
Parce que vous partez pour Marseille.
Pour Marseille,
je rappelle qu'on part pour.
Oui, je sais.
On va à. À Marseille, on part pour Marseille.
Merci pour cette petite leçon de français.
Je vous en prie. Merci Amandine.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Il est 13h05, vous pouvez rester, hein, Cyprien.
Ah bah oui, je reste.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Maël, qui est étudiant, 21 ans. Alors, ça m'intéresse vraiment beaucoup votre avis, parce que je voudrais savoir ce que pensent les jeunes de la candidature Zemmour, Maël.
Bah, moi, au niveau de la candidature Zemmour, je vous avoue que c'est intéressant. C'est quand même, pour l'instant, un candidat ou pas, on ne sait pas encore, qui est, bon, c'est vrai qu'il fait son petit bout de chemin. Maintenant, c'est aussi, il y a un sondage qui est sorti hier ou avant-hier, qui est aussi la personne la plus détestable en France, dans les personnalités politiques. Et je pense que sur les sondages, il faut toujours avoir cette, finalement, faire attention de, les chiffres, ça veut dire quoi? La marge d'erreur aussi, on n'en parle pas. Mais finalement, cette marge d'erreur, quand on est crédité à 18% ou à 13%, bah, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'on peut autant valoir 8 comme on peut en valoir 18.
Bon, vous êtes conseiller national des Républicains vous-même ?
Tout à fait, oui.
Bon, ouais, vous avez 21 ans et j'entends beaucoup de républicains dire on ne partage pas les mêmes valeurs. C'est le cas de Bruno Le Maire qui a été républicain, bien sûr qu'il ne l'est plus aujourd'hui, mais j'ai entendu cette petite musique ces derniers jours. Est-ce que vous diriez ça également, Maëlle ?
Moi, je partage cette petite musique. Peut-être que vous...
Mais précisément, vous par exemple, quelles sont les valeurs sur lesquelles, c'est ce que disait Christian Jacob, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Il est président des Républicains. Donc précisément, qu'est-ce qui vous sépare d'Éric Zemmour ?
Moi, je vais vous répondre assez simplement. C'est que c'est une personne qui ne s'inscrit pas dans une lignée partisane. Il est hors parti. Donc déjà, à partir de ce moment-là...
Et il peut avoir les mêmes valeurs. Moi, je ne suis pas dans un parti et je peux avoir les mêmes valeurs que vous.
Effectivement. Moi, après, vous m'interrogez. Je vous réponds simplement. C'est que effectivement, les valeurs qui sont les siennes, à mon avis, ne correspondent pas aux valeurs du Conseil national.
Oui, mais lesquelles, précisément ?
Écoutez, moi, au niveau des valeurs, peut-être de ce que c'est que la droite, au niveau peut-être du gaullisme et au niveau.
Mais j'entends bien,
mais
moi, ce que je voudrais, c'est précisément, je voudrais un exemple où on me dise Zemmour dit ça et ça ne correspond pas à notre ligne éditoriale ou à nos valeurs et je suis en désaccord.
Là, j'ai pas d'exemple précis à vous donner. Après, c'est aussi dans le discours, à mon avis, vous savez, Pascal Praud, c'est que quand il y a cette manière de parler qui est celle d'Éric Zemmour, notamment, si vous voulez, je vous prends le sujet d'immigration ou des prénoms, notamment des prénoms en France, c'est vrai qu'il a quand même une idée qui est là très forte, mais nous, aux Républicains, faut être modéré. Faut être modéré parce que à un moment donné, faut aussi incarner un discours présidentiel. Comment voulez-vous que quand on parle justement, notamment du dernier débat avec Jean-Luc Mélenchon, sur des sujets aussi sensibles que les prénoms en France, comment voulez-vous que nous derrière, on puisse être d'accord avec ce genre de propos ? Tout comme des propos aussi au niveau de l'immigration, des propos aussi au point de vue économique. Donc à partir de ce moment-là, moi je vous le dis sincèrement, je ne crois pas que Éric Zemmour lui-même se reconnaisse dans les valeurs de la droite républicaine, valeurs que nous, aux Républicains, nous portons.
Ah, merci,
et c'est vrai que sur ce sujet, si vous m'arrêtez juste en 10 secondes, c'est vrai que moi, l'année prochaine, je souhaite vraiment m'investir dans ce projet qui est les Républicains, puisque je suis candidat.
J'ai bien compris, merci Maël.
Pour les législatives.
Merci beaucoup Maëlle et votre exemple est excellent. Effectivement, personne aux Républicains n'a imaginé que seuls les prénoms français devaient être acceptés. Donc c'est un bon exemple de différence qui peut exister entre Éric Zemmour et les Républicains. Benjamin Sportouche, qui est le chef du service politique, est avec nous. Vous pouvez l'interroger. C'est assez rare. Hein. On a repris l'émission le 23 août. On est aujourd'hui le 28 septembre. C'est la première fois qu'il vient. Donc sa présence est extrêmement rare. C'est un peu le Lionel Messi d'une certaine manière de la politique pour nous.
Il était temps qu'il se réveille, il a mis un mois.
Donc il est là, alors est-ce qu'il va marquer un but ?
Messi marque.
Mais voilà, donc vous pouvez lui poser des questions.
Je m'échauffe.
Échauffez-vous, cher ami, échauffez-vous, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Pessier, vous avez en visu cette fois-ci Benjamin Sportouche, parce que parfois il est présent dans vos débriefs.
Régulièrement.
C'est comment, Laurent ?
On ne sait pas.
Ah, on ne sait pas.
On ne sait pas. Benjamin, je compte sur vous pour tout à l'heure pour le débrief de l'émission.
Mais quand je sais, je dis. Quand je ne sais pas, je ne dis pas.
Allez-y,
magnifique. C'est le sujet qui vous fait réagir au standard et sur nos réseaux sociaux. Éric Zemmour n'est toujours pas candidat, mais son ascension dans les sondages est bien une réalité. 13 à 14% d'intention de vote au premier tour de la présidentielle. La dynamique peut-elle continuer ? L'avis de Jean-Daniel Lévy, le directeur délégué de l'Institut Harris Interactive, était l'invité de RTL Midi.
L'électorat d'Éric Zemmour est un électorat qui n'est pas plus un électorat volatile. Et dans le détail, on voit que sa plus forte progression au cours de la dernière période s'effectue auprès de deux catégories de population qui sont non seulement informées, mais qui en plus se déplacent pour aller voter.
Éric Zemmour doit-il être pour vos candidats ? Fait-il de plus en plus peur ? 32-10, 3-2-1-0.
On va interroger Thierry dans une seconde, mais Benjamin Sportouche, ce qui me frappe ces dernières heures, c'est le tir nourri contre Éric Zemmour. Et j'entendais ce matin Gérard Larcher, président du Sénat, qui dit « Lorsque Éric Zemmour parle des femmes, j'ai l'impression que c'est Radio Kaboul ». Donc on en est là quand même, avec des attaques d'une violence et d'une caricature, d'une manière caricaturale quand même, disons-le, qui peut surprendre.
Enfin, vous avez eu aussi Jean-Luc Mélenchon qui a parlé des humoristes dans ce fameux débat qui a eu la semaine dernière.
Oui, mais il est dans son rôle.
Oui,
d'une certaine manière.
Écoutez, mais vous savez aussi que Gérard Larcher également. Gérard Larcher, quand même, ce que j'allais dire.
Radio Kaboul.
Le commandant. Non, mais je ne m'exprimerai pas sur le fond. Je vous dis pourquoi Gérard Larcher le fait. Parce que Gérard Larcher est président du Sénat et qu'il voulait un peu le côté de statut du commandeur de la droite, vous savez. Et il est là-dedans, c'est la droite modérée, mesurée. Celui qui voulait, rappelez-vous, une primaire, mais qui n'a pas eu gain de cause, c'est celui qui veut incarner les valeurs classique traditionnel et il se situe au centre. Donc oui, dès qu'il à chaque fois qu'il entend un propos de cet acabit-là, d'où qu'il vienne, il l'a toujours condamné, y compris dans son camp.
Thierry est avec nous qui habite Toulouse. Bonjour Thierry.
Oui. Bonjour, bonjour Pascal Praud.
Votre sentiment?
Eh bien, mon sentiment, c'est que 77% des Français, l'écrasante majorité des Français, ne veulent plus de Monsieur Macron. Ça, c'est très clair. Voilà. Donc,
alors Thierry, d'abord, vous êtes plutôt un électeur de droite?
Alors moi j'étais au RPR pendant de longues années et j'ai fait élire Jacques Chirac. En 95, j'étais dans la permanence de Monsieur Juppé, donc j'ai bien d'accord. connu Monsieur Juppé. Et il nous a lâchés lâchement, on va dire, pour aller à Bordeaux. Et Monsieur Jean-Louis Debré, à l'époque, qui était ministre de l'Intérieur, est revenu nous voir, un homme très sympathique avec lequel on a déjeuné. Et en face à face, c'était merveilleux.
Ça, c'est intéressant parce que vous êtes un profil intéressant. Vous avez 54 ans, électeur du RPR. Aujourd'hui, vous allez voter pour qui?
Et non seulement je vais voter, mais je vais m'engager, comme avec Jacques Chirac, derrière Éric Zemmour, et tout le RPR s'engagera derrière Éric Zemmour.
Eh oui, mais le RPR n'existe plus.
Non. Le RPR existe toujours derrière LR. C'est d'ailleurs pour ça qu'Éric Ciotti a dit qu'il voterait Zemmour. Et à un moment donné, vous verrez qu'il y aura une bascule de nombreux LR qui reviendront dans le giron du RPR. Voilà. Et le RPR a
été. Mais à votre avis, ça représente combien des LR aujourd'hui, cette part, comme vous, qui êtes intéressé par Éric Zemmour?
Eh bien, à mon sens, ça représentera à peu près 60%.
Vous pensez que c'est majoritaire? Oui. Mais c'est la question
Absolument.
Que j'ai posée tout à l'heure à Monsieur Lévy.
Et
on n'a pas ce sondage, et je le dis également à Benjamin Sportouche, moi, il m'intéresserait beaucoup, ce sondage.
Regardez ce qui se passe actuellement. Vous avez plein de... Regardez tous les ministres qui ont rallié Macron à la soupe. Regardez...
ceux-là sont déjà partis, vous avez raison d'ailleurs. Donc
oui,
ceux-là, par définition, ils ne peuvent pas voter Zemmour, puisqu'ils
sont
partis.
Mais moi, ce que j'aurais bien aimé...
C'est Bruno Le Maire et Gérald Darmanin.
Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'on puisse mettre à la primaire M. Zemmour, s'il le souhaite. Et vous verrez que Zemmour sera élu candidat de la droite.
Vous pensez? Il serait élu aujourd'hui par les militants des Républicains?
Absolument. Et Larcher n'est pas de droite. Et beaucoup ne sont pas de droite, ils sont du centre. Derrière
Sportouche, qui est journaliste politique et qui suit ça forcément de près.
Voilà.
Oui.
Je peux vous...
Votre analyse. Non, mais là, on est au cœur d'une bonne question et personne ne peut répondre à cette question.
Sur
les Républicains. Je parle des militants républicains. Est-ce que si Zemmour se présente, il gagnerait la primaire à droite?
Ben écoutez, vous disiez qu'il n'y avait pas de sondage. Il y a eu un sondage dans le journal du dimanche. Alors, c'était le 11 septembre. Les choses peuvent évoluer, comme tous les sondages. Mais à l'époque, eh bien, il y avait 26% des sympathisants des Républicains qui, à ce moment-là, exprimaient une sympathie pour Éric Zemmour.
Et c'est pas 60% comme dit Thierry.
Ah ben non, exactement. Pour l'instant, c'est 26%. Donc, vous avez, et on l'entend bien, aujourd'hui, c'est vrai, une division au sein de la droite. Mais pour l'instant, ce qu'on entend le plus, c'est François-Xavier Bellamy.
Exactement.
Mais François-Xavier Bellamy, souvenez-vous tout de même, cher monsieur, c'est quand même 8% aux élections européennes. Et là, on se dit, la droite s'est recroquevillée sur son noyau dur. Donc, est-ce que c'est là-dessus aussi que
Monsieur Zemmour faisait 7%. Aujourd'hui, il en fait 13. Et dans 15 jours, il en fera 20.
Mais Xavier Bertrand, pour vous, Thierry, par exemple, c'est pas un candidat qui vous convient.
Mais Xavier Bertrand n'est plus LR.
C'est vrai, déjà, c'est paradoxe. Vous avez parfaitement raison. On demande aux Républicains de voter pour deux personnes. Oui, ça, c'est quand même un paradoxe, effectivement, qui est tout à fait particulier. Donc aujourd'hui.
Pardon, quand même, tout de même, pour revenir à ce sondage, il existe, c'est important de le dire. Si on reprend ce que dit le JDD, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, le 11 septembre, ont la confiance respectivement de 68% des sympathisants LR. C'est pas rien, quand même. Donc pour l'instant, majoritairement, les sympathisants LR, je parle même pas des adhérents, sont plutôt vers une droite.
Sympathisants partisans,
classique.
A priori, sont plus ouverts, si j'ose dire, que les militants.
Ah, bah, bien sûr. Bah, alors, attendez. Là, c'est, bah oui, mais les militants, c'est quand même, encore une fois, un noyau dur. Donc, si vous voulez gagner une élection, il faut que vous alliez au-delà de ce noyau dur. Vous êtes d'accord avec moi, Pascal? Donc, Éric Zemmour doit aller à la conquête d'un électorat massif. Et on l'a vu dans nos reportages récemment à l'antenne. Éric Zemmour, là où la droite est présente, il n'est pas, soit il n'est pas encore complètement connu, hein, il faut être clair, soit encore on ne connaît pas ses idées, soit une dernière fois, on ne sait, pour cet électorat de droite, il n'incarne pas en globalité tout ce en quoi il croit.
Thierry reste avec nous, bien évidemment, parce qu'on a d'autres questions à lui poser. Il est 13h18, il est très prolixe aujourd'hui, monsieur Sportouche.
Je me rattrape.
Exactement.
Un mois sans moi.
À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Jusqu'où peut aller Éric Zemmour? C'est un peu notre question. Laurent Tessier.
Le polémiste est à 13-14% d'intention de vote au premier tour de la présidentielle. Dernier sondage, Arez Interactive. La réaction de Nicolas Sarkozy hier chez nos confrères de CNews. L'ancien président n'a pas épargné le polémiste. Le symptôme, selon lui, du vide du débat politique.
Il n'est pas la cause du vide. Il est le symptôme. Il est le symptôme. Je pense que la pression d'une pensée unique est telle qu'il a fini par vider le débat de ce qui était vraiment fondamental et essentiel. Et le vide permet aux excès et aux extrêmes de prendre toute la place.
Éric Zemmour doit-il être pour vos candidats? 32-10, 3-2-1-0.
Thierry, pour conclure avec vous, qui étiez engagé du RPR, pour qu'on comprenne la psychologie et les motivations d'un électeur potentiel d'Éric Zemmour, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous êtes plus enclin à voter Zemmour que Marine Le Pen ou que Xavier Bertrand?
Bah écoutez, moi, Marine Le Pen, je sais qu'elle n'arrivera pas parce qu'ils feront tout pour qu'elle n'y arrive pas. Je suis pas.
Pensez que Zemmour peut y arriver?
Mais bien sûr qu'il peut y arriver.
Pensez qu'il peut être président de la République?
Il sera président de la République.
Ah oui, regardez, là, c'est une grosse cote, là.
Regardez ce que dit Nicolas Sarkozy, qui est accusé de corruption, etc.
Non mais restons sur ma question. Dire. Qu'est-ce qui fait que vous votez? Donc vous dites Marine Le Pen, je vote pas pour elle parce qu'elle n'y arrivera pas. Et autrement, vos motivations pour voter Zemmour?
Mes motivations, c'est que c'est quelqu'un qui parle vrai. Regardez, on essaie de lui mettre des bâtons dans les roues, matin, midi et soir. Ma fille qui a 17 ans, qui s'appelle Chiara, pour le coup, d'accord?
Bon, ah, on l'a appelé Chiara. Il va falloir qu'elle change de prénom si Éric Zemmour est président de la République, Thierry.
Alors, justement, c'est ce qu'on lui a dit à l'école. Alors, attention, tu vas être obligé de changer de prénom. Éric Zemmour n'a jamais dit que la loi serait rétroactive.
Ah, je crois qu'il l'a peut-être pas dit comme ça, mais en tout cas, on pouvait le penser.
Non. Réinterrogez-le sur ce sujet.
C'est un très mauvais combat, Thierry.
Voilà ce qu'on dit à l'école. Attention, votez pas pour Zemmour parce que vous allez changer de prénom.
Oui, mais je me fiche.
C'est gravissime.
Thierry, pardonnez-moi. Là, Éric Zemmour, il dit n'importe quoi. Votre fille Chiara, vous avez appelé.
Et alors,
votre fille, elle est moins française parce qu'elle s'appelle Chiara?
Non, mais on lui a donné le prénom de Chiara.
Si, et pourquoi vous l'avez appelée Chiara? Parce que j'imagine que vous avez une famille italienne.
On est sicilien d'origine.
Et alors, vous vous sentez moins français parce que vous êtes sicilien d'origine et votre fille, elle est moins française?
Non, mais ça peut se comprendre. C'est un acte d'amour de donner un prénom français. Si effectivement la loi de Napoléon avait été tel était le cas quand ma fille.
Vous êtes extraordinaire. Donc vous n'aimez pas la France puisque vous avez appelé votre fille Chiara?
Non, c'est pas ce que dit Éric Zemmour.
Mais pourquoi vous l'avez appelée Chiara?
Ça fait 20 ans que je sers la France. Je suis capitaine de gendarmerie en réserve.
Mais justement, Thierry, je ne vous accuse pas. Justement, vous l'avez donné, comme vous l'avez dit très justement, parce que c'est un clin d'œil à vos origines. Vous avez d'autres enfants?
Oui.
Ils ont des prénoms siciliens?
Emma, non.
Non, Emma, c'est plutôt français.
Non, c'est plutôt français. Non.
En plus, c'est magnifique, Chiara. C'est un superbe prénom.
Moi, la raison pour laquelle on a appelé Chiara, c'est que ma femme ressentait ce prénom. Donc voilà, on l'appelait Chiara. Si ça avait été vraiment de mon seul choix, je l'aurais peut-être appelé avec un prénom qui...
Bon Thierry, on ferme la parenthèse de toute façon et on accueille Muriel. Muriel qui est avec nous. Bonjour Muriel.
Bonjour Pascal.
Votre sentiment sur Éric Zemmour et pourquoi ça marche?
Alors mon sentiment, pour une fois dans ma vie, je suis d'accord avec Nicolas Sarkozy. Il profite d'un vide abyssal dans le débat politique. Tout à l'heure, ça vous choquait les réactions des responsables politiques, mais il est lui-même une caricature du débat, Éric Zemmour. Il ne peut que générer ce type de comportement. Ça ne peut pas être autrement. Ce qui est atterrant aujourd'hui, c'est qu'on lui fasse une telle place. Allez. Moi, je ne comprends pas. Vous savez, j'ai 53 ans, j'ai l'âge du monsieur qui parlait juste avant, j'ai toujours voté, et à toutes les élections. Je ne suis pas engagée, je n'ai pas une étiquette définie. Mais bon, je
quand vous dites qu'on lui fasse une telle place, ce « on » m'intéresse, c'est qui « on » ?
C'est les médias, beaucoup, je trouve. Puisqu'il y a une émission sur, il avait une émission sur CNews, encore aujourd'hui, on parle de ça. Il alimente le débat. Mais il alimente le débat pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien derrière, il n'y a rien à côté.
Mais ça, c'est toujours un débat éternel de l'œuf et de la poule. Est-ce que vous pensez que ce sont les médias qui ont fait Zemmour ? Ou est-ce, et c'est Jean-Michel Apathy qui disait ça l'autre jour, ou est-ce que vous pensez simplement que Zemmour se fait tout seul et que les médias suivent ?
Non, Zemmour, il ne s'est pas fait tout seul. Zemmour, il a, c'est un homme qui, je pense, est d'une intelligence remarquable, parce que pour faire ce qu'il fait, et il le fait très bien, en toute honnêteté, il faut être intelligent. Je pense qu'il a, il s'est engouffré dans la brèche d'un rôle qu'on lui a permis de jouer d'abord avec l'émission de Ruquier il y a quelques années, et quelque part ça lui vend des bouquins, et je pense qu'aujourd'hui il est dans un truc même qui le dépasse peut-être même. Je suis même pas sûre qu'il ait conscience tout à fait à quel point son personnage le dépasse. Maintenant, à côté de ça, le problème il est que effectivement lui a su profiter, on va dire, d'une ouverture, mais derrière il n'y a personne qui est en capacité de contrer en élevant le débat, justement. Là, on vient de faire 10 minutes sur le fait que son programme, c'est de donner des prénoms français à tout le monde. Il n'y a pas d'autre problème en France à régler avant ça. Ben, c'est hallucinant que cet homme-là prenne autant de place, alors qu'aujourd'hui, on a un problème de chômage à régler, on a le problème des retraites à régler, on a une misère sociale qui est terrible. Je suis dans l'associatif. Ce matin, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait la manche dans le bureau tabac où je vais, que je connais bien, et qui attend depuis un an et demi dans sa voiture d'avoir un logement social. Et là, par contre, qu'est-ce qu'il dit Zemmour sur tout ça ? Quelles sont ses propositions ? Je veux dire, à un moment, moi, c'est ça qui m'intéresse de savoir. Mais lui et les autres, aujourd'hui, de quoi on parle ?
Muriel, on va continuer cette conversation, mais c'est vrai aussi, et c'est ce que disait Nicolas Sarkozy, c'est peut-être le symptôme, c'est-à-dire qu'il arrive derrière 40 ans d'échec. Où les gens ont le sentiment, en tout cas, que tous ces problèmes que vous venez de soulever n'ont pas été résolus. Et vous avez un homme qui ne propose pas forcément grand-chose aujourd'hui, mais qui fait un constat qui est partagé par beaucoup. Pascal, mais on va poursuivre la discussion tout de suite après la pause.
40 ans d'échec, mais vous avez bien vu qu'au dernier régional, il y a quand même des présidents de conseils régionaux qui ont été réélus. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi relativiser tout cela. Et quand même, dans ce dernier sondage, Emmanuel Macron, qui est le président sortant, est à 24%. Ce n'est pas rien. Il est président sortant.
Je suis d'accord avec vous, mais évidemment, je caricature sans doute. En tout cas, je résume.
C'est pas votre habitude pourtant, ça.
Non, mais disons que je généralise. J'ai le sentiment que si vous allez dans la rue et que vous demandez aux Français, depuis 40 ans, est-ce que les hommes politiques ont réussi à faire le job, j'ai le sentiment qu'ils vont dire non. Voilà. Pub, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210, 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Muriel est avec nous et à juste titre. Muriel dit, voilà, vous êtes sur l'écume des choses, vous ne parlez pas des vrais sujets qui sont au cœur de la société française. Muriel, c'est entendu, mais en même temps, ce n'est pas moi qui achète les livres d'Éric Zemmour. En 5 jours, il en a vendu près de 200 000. Ce n'est pas moi qui fais l'audience lorsqu'il rencontre Jean-Luc Mélenchon et qui a 4 millions de personnes.
Par contre, c'est les médias qui l'invitent. C'est les médias qui... Ce que je veux dire par là, les médias ne font pas tout. On va pas non plus, ils sont pas non plus omnipotents, c'est pas le problème. Mais à un moment, on sert la soupe, j'allais dire, d'un Éric Zemmour en l'invitant un peu partout. On lui a quand même proposé ce débat.
Mais on l'invite parce que ça fonctionne et ça marche, Muriel.
Oui, ce que je reproche à nos politiques, c'est qu'aujourd'hui, BFM TV préfère organiser un débat Mélenchon-Zemmour pour faire de l'audience plutôt que d'autres hommes politiques qui auraient peut-être une autre vision à proposer, d'autres solutions à proposer.
Mais les hommes politiques, on les écoute. Mais effectivement, il y en a... Il y en a qui créent davantage l'envie que d'autres. Qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie.
Quand M. Ciotti dit qu'il préfère voter Zemmour que Macron, mais on marche sur la tête. Parce que, alors oui, d'accord, Zemmour fait beaucoup de bruit, mais il propose quoi ?
Pour le moment, pas grand-chose, parce qu'il n'est pas encore candidat.
Benjamin Sportif, je vous réponds.
Oui, mais c'est très intéressant ce que vous dites. D'ailleurs, c'est vrai que Éric Ciotti s'est exprimé sur Zemmour au grand jury, ça nous avait même nous-mêmes surpris. Mais c'est intéressant de voir ce qu'il va dire sur le fond. Vous avez tout à fait raison, c'est là qu'on attend Éric Zemmour. Alors vous dites, Pascal, il n'est pas encore candidat, il s'exprimera. Il s'exprime sur d'autres sujets qui pour l'instant lui conviennent, qui sont ceux de l'immigration et de la laïcité, mais et l'identité française, mais il ne va pas sur ces sujets-là, et c'est là-dessus qu'on l'attend, notamment sur le pouvoir d'achat. Et puis c'est quand même une candidature qui est en train de se restructurer, puisqu'on sait qu'il a trouvé un QG de campagne, qu'il a pris un préfet pour l'accompagner, donc tout ça est en train vraiment de se structurer. Maintenant, ce qu'on attend, c'est de voir, et c'est à ce moment-là que les choses vont se cristalliser. Qu'est-ce qu'il propose ? Je rappelle juste quand même qu'en 2002, Jean-Pierre Chevènement, qui avait été aussi un phénomène quand il est entré en campagne, en même qu'il annonce sa candidature en septembre 2002, il est monté jusqu'à 12% des intentions de vote. Donc, est-ce que c'est un phénomène qui va s'inscrire dans le temps ? Il faut voir sur la durée. Et je rappelle quand même, pour en revenir à notre sondage, que pour l'instant, la sûreté du vote, c'est 71%. C'est pas rien. Ça veut dire que 71% des gens qui sont exprimés disent « Mon vote est certain et je le maintiendrai jusqu'à la fin. » Mais il y a quand même près de 30% qui disent « Ben non, je sais pas, j'hésite. » Donc tout ça, eh bien, c'est un mouvement, encore une fois, qui peut évoluer. Et bien évidemment que le fond des propositions, les gens, ils sont très attentifs. Et je vous rappelle aussi quand même, c'est assez spectaculaire ce qui s'est passé en 2017-2017. 2016, la campagne s'oriente aussi vers des thèmes qui sont ceux de l'immigration, de la laïcité, de l'identité, et Marine Le Pen est assez forte. Et finalement, les thèmes évoluent plutôt vers l'économie. Et c'est d'ailleurs cet avantage que prend Emmanuel Macron en 2017.
Oui,
on voit se transformer la campagne. Muriel. Merci Muriel.
Je peux juste te dire une chose, Pascal, juste une chose. Je pense justement ce que vient de dire M. Sportouche est plus que vrai, et que Marine Le Pen perd du terrain par rapport à Zemmour. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est décrédibilisée sur ces questions-là pendant la campagne face à Macron. Voilà.
Ben merci beaucoup Muriel, et n'oubliez pas, parce que ça existe dans une partie de, j'allais dire, du peuple de droite, qu'il a le sentiment qu'on lui a volé son élection de 2017, et que Zemmour peut aussi, pour ces gens-là qui étaient des fillonistes, ils ont le sentiment que cette candidature a été percutée de plein fouet par les affaires, ils peuvent avoir le sentiment que Éric Zemmour est leur candidat aujourd'hui. Donc,
Vous écouterez Marie Mollet, notre reporter, est allée à la rencontre de ces fionistes, et vous aurez un très bon reportage la semaine prochaine, et vous verrez que ces fionistes, ils sont paumés, et c'est pas forcément vers Éric Zemmour qu'ils vont. Vous voyez, donc il y a quand même une grande hésitation, un grand questionnement dans ce peuple de droite dont vous parlez.
13h36. Il sait aujourd'hui, Benjamin Spantouche.
Non, c'est la nouvelle saison.
Il sait, est-ce qu'on a une petite chanson pour Benjamin. J'ai une chanson pour vous, et c'est Benjamin Sportouche. Elle sera pour Benjamin Sportouche. C'est Jean Gabin qui dit « Je sais ». Ça sera pour vous. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais « Je sais ».
« Je sais ».«
Je sais, je sais, je sais ». C'était le début, c'était le printemps.
Cette chanson est géniale. Elle est de Jean-Louis Dabadi, chantée par Gabin. Et nous taquinons parfois notre ami Sportouche parce qu'il est très prudent. Il dit « Je ne sais pas ». Et bien aujourd'hui, il sait.
Donc c'est pour ça que nous lui rendons hommage. Voilà.
Bon. Charles est là. Bonjour Charles.
Oui, bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant à Montpellier. La candidature Zemmour.
Eh bien écoutez, moi j'ai plusieurs choses à vous dire déjà. Je pense que toutes les tentatives médiatiques pour le décrédibiliser, comme la Une de Paris Match, l'émission avec Ruquier, j'en passais des meilleurs, en fait, toutes ces tentatives-là échouent. De même que les propos de l'opposition LR, par exemple, ou autres, qui cherchent à le minimiser, eh bien ces propos-là échouent également. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, ils montent dans les sondages. Et ça, je veux dire, c'est tangible. Et en fait, pourquoi ? Parce que je pense simplement qu'il répond aux préoccupations des Français. Ses propos résonnent dans le vécu quotidien des honnêtes gens. Il dit les choses sans détour et avec courage et depuis des années. Et du coup, vous savez ce qui se passe ? Moi, je suis persuadé qu'en fait, il est en train de ringardiser le discours des politiques professionnelles. Voilà. Et pour quelle raison ? Simplement parce que les autres ne sont pas crédibles. Voilà. C'est parce que depuis des années, il y a une distorsion, si vous voulez, entre le discours, les intentions, et puis ce qui s'est fait dans le concret, dans le réel. Et il y a tout un tas d'honnêtes gens en France qui souffrent, qui souffrent depuis longtemps et qui en ont ras-le-bol, si vous voulez, de ce laxisme, de cette passivité. Et du coup, il est en train de les ringardiser. Et il faut lui reconnaître quand même du courage, parce que le bashing qu'il subit à longueur de temps, y compris des agressions, il faut quand même lui reconnaître du courage. C'était pas quelqu'un justement qui se saisit du vent médiatique et des modes et des sujets que les autres empruntent par opportunisme électoral. Lui, en fait, il est fidèle à des idées. Il a réfléchi. Il a fait des diagnostics. Il a fait des bilans. Et visiblement, malgré tout le bashing qui s'organise autour de lui, malgré toutes les pudeurs qu'ont les uns et les autres, il paraîtrait a priori que ça porte ses fruits et que des personnes, en fait, soient d'accord avec lui et qu'il entende. Et je peux vous prédire quelque chose, c'est que ça ne va pas arrêter de s'accroître. Les sondages vont augmenter et au-delà des sondages, je vous garantis que le taux d'abstentionnisme, en fait, dans ce taux-là, dans ce nombre de gens qui ne sont pas allés voter ou qui votent par dépit à chaque élection présidentielle, je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup qui vont voter par conviction.
Charles, il y a quelque chose que vous avez dit qui est très intéressant. Vous dites qu'il ringardise les oui. autres parce qu'il les cache, parce qu'il est direct et parce qu'il parle comme ne parle pas un homme politique.
Et je pense que vous êtes crédible.
Effectivement, voilà. Parce qu'il n'a pas encore été aux affaires. Et là, je pense que vous avez plutôt raison. Et je le dis à Benjamin Sportouche qui passe son temps à interroger des hommes politiques. L'autre jour, il vient avec Alba Ventura. Et Alba Ventura lui dit, à un moment de l'interview, mais Éric Zemmour, là, vous êtes dans l'ambiguïté. Et elle pense sans doute le mettre en difficulté, à juste titre, lorsqu'elle lui dit ça. Et que répond Zemmour ? Elle dit « Oui, je suis dans l'ambiguïté, mais j'en sortirai le jour où ça sera mon intérêt. » Donc cette manière cache de parler, directe, et vous êtes avec les gens du grand jury, personne ne parle comme ça. Et ça va... personne ne parle comme ça. Personne n'est au plus près... de sa vérité. Les gens font des circonvolutions, bien souvent, des hommes politiques. Est-ce que vous ne pensez pas, comme Charles, que ça peut le servir précisément dans cette campagne qui arrive?
Écoutez, qu'il fasse écho à quelque chose dans l'opinion, ça c'est possible.
Non, je parle de la forme.
Alors là, dans la forme, je suis un peu partagé, pour être très clair, parce que vous savez, on disait aussi la même chose de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il peut être très cash. Vous avez des hommes politiques qui, quand ils viennent, disent les choses. Par exemple, vous venez de dire Éric Ciotti, là tout à l'heure, il s'est prononcé par Éric Zemmour, il a dit je voterai Zemmour. Et d'ailleurs, il s'est fait bâcher pour ça. Rappelez-vous.
Oui, la preuve.
Bah oui, mais d'accord, mais ils disent les choses. Après, que c'est pas parce que, si vous voulez, on a l'impression que c'est sur les thématiques sur lesquelles il est, que parce qu'il parle plus fort et qu'on l'entend beaucoup en ce moment, il parle cash. C'est différent de parler fort et d'être beaucoup exposé et de parler cash. C'est différent. Vous savez, il a un discours, quand vous écoutez beaucoup, bien Éric Zemmour, et c'est votre cas, très érudit aussi. Il parle avec tout un background historique. Parfois, c'est pas facile non plus de le suivre aussi dans sa pensée historicisée à Éric Zemmour.
C'est autre chose.
Donc, oui, mais voyez, c'est aussi, il se place aussi pas forcément du côté de celui qui va avoir un vocabulaire tout le temps accessible.
Donc vous ne partagez pas trop l'avis de Charles.
Je m'interroge sur le côté cash. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des moments où vous avez raison, il y a des politiques qui se cachent dans leurs petits doigts et on essaye de les démasquer, de les débusquer. Ce n'est pas toujours évident.
Et c'est très dur.
Mais pour autant, vous voyez le côté positif en disant il dit je ne sortirai pas de cette ambiguïté. Et en même temps, excusez-moi, moi j'ai envie de dire dites-nous, parce que le débat, il faut qu'il ait lieu et que les Français le souhaitent. Vous avez entendu Muriel, donc c'est pas inintéressant. Mmh. Donc ça, ça dépend de quel côté on se place et quelle perception on a du personnage. C'est assez intéressant.
Et c'est pour ça qu'on discute parfois, c'est parce qu'on n'est pas forcément d'accord. Restez avec nous, Charles. Vous savez qu'on a une révélation depuis le début de cette saison. C'est Monsieur Olivier. Monsieur Bobo qui suit les réseaux sociaux et notamment Facebook.
J'ai eu peur, je pensais que Benjamin ne me connaissait pas. J'ai eu
baptisé, mais je ne savais pas qu'il restait en régie, moi.
Baptisé Monsieur Boubouk.
Ah, Monsieur Boubouk.
Ce qui est très
oui,
élégant et très chic.
Ah, mais il reste en régie, il vient
je reste en régie, exactement. Vous voulez qu'il vienne, Benjamin?
Non.
Vous voulez qu'il vienne en studio?
Je vois très bien, là, je le vois. Non.
Le studio est quand même réservé à.
Aux stars.
Voilà.
C'est gentil, merci beaucoup.
Et Monsieur Boubouk, alors il n'est pas non plus à la cave, il ne faut pas exagérer.
Merci Pascal pour nous aussi.
Il est, voilà, c'est ce que je vous dis, il est en régie. Donc, ils sont pas à la cave.
Et vous savez que je suis très fan de Benjamin Sportouche.
Non, mais c'est trop d'honneur aujourd'hui. Oui.
Parce qu'il répond comme moi aux questions que vous lui posez. Il répond je ne sais pas. Voilà, on a le même rôle et c'est exactement pareil, Pascal. C'est vrai.
Il a pris la confiance un peu, monsieur Boubouk, ces dernières heures. Bon. C'est quelque chose, il a pris la confiance.
J'espère que je ne dis pas que je ne sais pas seulement, dites-moi.
Que nous dites-vous, cher ami?
Sur nos réseaux sociaux, pour Franck, ces sondages ne sont pas du tout représentatifs. À l'inverse, Muriel nous écrit Zemmour est en train de siphonner le RN et LR, il va dépasser les 20%. Paul s'énerve, sur notre page Facebook. On s'étonne des 13% d'Éric Zemmour alors que ce sont nos gouvernements précédents qui ont fabriqué ce résultat.
Ouais, exactement. C'est pas une mauvaise analyse. C'est ce que dit d'ailleurs un peu Nicolas Sarkozy. C'est forcément un symptôme de quelque chose qui ne va pas dans la société française. Quelqu'un qui arrive de journaliste, qui a jamais fait de politique, qui a aucun mandat et qui se retrouve dans cette position, c'est jamais arrivé. Donc c'est un symptôme de quelque chose qui ne va pas. La pause. Vous vous souvenez de quelle année cette chanson?
Non.
Je dirais que c'est 74 ou 75.
Ah, je dirais plus lointain, moi.
Jean Gabin est mort en 76, en novembre 76. Vous savez quel âge avait Jean Gabin quand il est mort?
85.
72 ans. C'est très rigolo ce que vous dites. Bah oui, parce qu'à l'époque, on faisait plus vieux. Il jouait les vieux déjà depuis 20 ans. Il était de 1904 et il était mort en 1976. Il avait 72 ans et il faisait effectivement paix à son âme, mais il faisait un peu plus vieux, disons-le. 74, vous voyez cette chanson. Son dernier film, vous savez comment son dernier film de Jean Gabin, La Naissante. À tout de suite.
On ne sait pas.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier.
Vous pouvez nous appeler pour parler de l'hommage national qui sera rendu à 16h30 aux Invalides au caporal-chef français Maxime Blasco. Un soldat au parcours exceptionnel, tué en opération au Mali la semaine dernière. Il était paxé avec Alexandra. Ensemble, ils ont eu un petit garçon, Ethan, 8 ans. Et c'est elle qui lui a annoncé la mort de son papa. Alexandra s'est confiée au micro RTL de Serge Puyot.
Je lui ai dit la toute première phrase, ton papa t'aime plus que tout. Papa va revenir, mais pas comme tu l'imagines. Maintenant, c'est une belle étoile dans le ciel. Je voyais qu'il mâchouillait le coin du coussin et du coup, c'était compliqué pour lui. Donc, il a fallu que je mette les mots, que je sois un petit peu plus brutale. Je lui dis, ton papa est mort. Et après, de lui-même, dans la soirée, il a tenu à savoir comment. Il a compris.
Et Tan était fière de son papa?
Complètement. Son papa, c'était le plus fort. On lui a acheté une petite boîte avec des gommettes, des feutres pour qu'il puisse dessiner, mettre ce qu'il voulait dessus. Je vais lui imprimer des photos de lui avec son papa tout seul, de nous trois, pour que ça puisse être mis dans le cercueil et que ça l'accompagne dans son dernier voyage.
Votre enfant, votre mari est militaire, comment vivez-vous le quotidien? Nous attendons vos témoignages au 3210, 3210.
Témoignage bouleversant de cette jeune femme. Nous revenons à Éric Zemmour, même si les transitions sont toujours difficiles. Charles était avec nous, on va être avec Pierre qui est fonctionnaire. Charles et Thierry d'ailleurs sont restés, peut-être qu'on pourra leur demander tout à l'heure leur avis sur la discussion que nous avons eue avec Benjamin. Pierre, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
La question marxiste, vous savez, c'est d'où parlez-vous? Alors, je vous la pose. Vous êtes un électeur de droite?
Oui, tout à fait. J'étais un électeur de droite. J'ai toujours été à droite du temps du RPR. Mmh. Et jusqu'au jour où le RPR a changé de nom, j'ai malheureusement changé de parti politique pour aller vers les extrêmes. Mais ce que dit M. Zemmour, malheureusement, c'est au moins 70% de ce que pensent les Français, et quelle que soit leur origine.
Bah, ils pensent pas ça sur les prénoms. Il n'y a pas 70% des gens qui pensent qu'il faut changer
pas,
de prénom.
Non, mais peut-être pas sur les prénoms, mais sur le fond, je dirais, sur le fond.
Mais c'est quoi sur le fond?
Eh ben, sur le fond, parce qu'on s'aperçoit qu'en France, si vous êtes un bandit, un truand, vous êtes mieux loti que d'une caissière de supermarché.
Pierre, c'est pas vrai, vous savez bien que c'est pas vrai. Ça, on dit ça dans un dîner, on dit ça dans un comptoir de café, mais on sait bien que si vous êtes un bandit, vous n'êtes pas mieux logé que si vous travaillez en France.
Ah, si. Si, en France, les prisons dans le monde entier, les prisonniers sont réputés pour, se faire emprisonner en France que plutôt dans les autres pays, où les autres pays, c'est beaucoup plus dur qu'en France. En France...
On va pas aller dans ce débat-là, Pierre, parce que ça n'aurait pas de sens. Les Baumettes, c'est pas le club Méditerranée, que je sache. Mais sur le fond, restons sur le fond, parce que manifestement, fond, oui. Vous avez peut-être la tentation d'Éric Zemmour, et on essaye de la comprendre. Qu'est-ce qui fait ? J'ai compris également que vous étiez allé voter chez Marine Le Pen.
Tout à fait.
Bon, et qu'est-ce qui fait cette fois-ci, par exemple, que vous pourriez quitter Marine Le Pen ? Parce que vous êtes le premier auditeur comme ça. Généralement, il y avait des auditeurs républicains qui vont chez Zemmour. Là, vous étiez chez Marine Le Pen, vous pourriez aller chez Zemmour. Pourquoi ?
Disons que c'est dans ses idées, par rapport à ses idées, par rapport à ses propos, puisque il dit le fond des choses. Il dit, je dirais, la réalité d'un certain mutisme de nos anciens politiques.
Mais Marine Le Pen aussi, elle le dit. Qu'est-ce qui fait que vous n'iriez pas avec elle ?
Bah, de toute façon, j'irai quand même avec elle, mais c'est pareil. Monsieur Zemmour, c'est peut-être aussi un stratagème politique pour essayer de, c'est peut-être mis par la droite, c'est peut-être mis par Monsieur Macron, c'est peut-être un système qui est mis par nos politiques actuelles qui sont peut-être en place pour justement essayer de détourner une certaine attention pour continuer à être au pouvoir.
Bah merci Pierre, merci beaucoup. Il est 13h55, on va conclure cette longue heure, si j'ose dire, durant lesquelles on a parlé d'Éric Zemmour. Et on va conclure avec notre ami Benjamin Sportich, qui nous a fait l'amitié. J'ai dit comment ?
Sportif.
Je vais c'est vous dire quelque chose. Sportif, ça, il y a au moins un avantage à Éric Zemmour. C'est qu'on se disait la campagne serait un peu tristounette. Et là, elle va être animée. Première chose. La deuxième chose, on nous annonçait le duel Le Pen-Macron. Les Français disaient qu'ils n'en voulaient pas, d'ailleurs. Souvenez-vous, ces sondages, ils n'en voulaient pas. Bon. Et peut-être qu'on ne va pas l'avoir. Alors, votre analyse à vous, est-ce qu'il est urgent d'attendre ?
Ah, il est bien sûr urgent d'attendre. Et ce n'est pas Jean-Alphonse Richard qui vient d'entrer dans ce studio qui me démentira, puisque bien évidemment, une campagne présidentielle, c'est très long. Et vous le savez, Pascal, tout peut s'inverser au moment bouger, mais dans un sens comme dans un autre, au moment de la déclaration de candidature. Et puis, vous l'avez dit, les Français ne veulent pas de ce duo. Et c'est vrai que c'est important. C'est pour ça qu'ils trouvent une place, Éric Zemmour, aujourd'hui. C'est peut-être ce trublion qui, pour l'instant, vient perturber ce duo de tête dont on nous parle depuis 4 ans et dont les Français ne veulent pas. Après, quand il y a le fond des idées, et c'est très intéressant parce que les Français votent aussi, qu'on le veuille ou non, en fonction des programmes et des propositions. Oui, c'est un débat d'idées. Et oui, à un moment donné, Éric Zemmour devra rentrer dans cette arène parce qu'il faudra qu'il soit dans le match. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il s'en exclut sur les thèmes aussi qui intéressent les Français, pas tous, mais le pouvoir d'achat notamment, qui va notamment entrer dans la campagne. Vous l'entendez bien parmi vos auditeurs quand je vous écoute, il y a cette revendication d'un partage du profit aujourd'hui ou de la croissance qui existe. Quelles sont ces recettes ? Et ça, les Français, ils sont très attentifs. On l'a vu pendant la campagne des régionales, par exemple, c'est aussi sur les idées, sur les programmes qu'ils s'expriment. Et ça, encore une fois, c'est un débat sain et démocratique qui doit avoir lieu et je suis persuadé qu'il aura lieu, et notamment, vous le savez bien sûr, sur cette antenne.
Pendant que vous parliez, j'ai eu des textos de Régis Ravanas, de Jacques Esnou et de Franck Moulin. Ils souhaitent désormais que vous soyez tous les jours présents dans cette émission. Donc, cher Benjamin Sportouche, et pas simplement une fois par mois, bon, ils ont dit on veut Sportouche, donc on veut l'écouter. Ce sont des dirigeants importants de la maison quand même. Donc vous ne pouvez pas vous soustraire à ces directives. Merci, cher ami. Merci. Il est 13h57. Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime, c'est l'heure.
Hello, Pascal.
Bonjour. Vous dites hello, vous êtes jeune.
Je dis hello, je dis salut, moi. C'est bonjour, Pascal. Bon. Eh bien, vous savez, une enquête, c'est comme la politique, finalement, parce que le moindre détail peut tout changer. Ce soir, émission en partenariat avec M6, l'émission Appel à témoins à 21h, avec le meurtre de Vincent Dorado. C'est une énigme pure. 33 ans, professeur de collège, abattu devant chez lui en Corse à l'hiver 2016. Vengeance d'un mari jaloux, méprise, affaire d'argent, on a tout fouillé.
Ça sera ce soir, hein, vous avez dit, sur M6.
Alors, ce soir sur M6, il y a un appel à témoins qui va être lancé aux auditeurs, comme il y avait déjà eu une première émission qui avait porté ses fruits. Et ce soir, parmi les thèmes abordés, il y a trois affaires qui seront abordées. Il y a l'affaire Vincent Dorado, qui est, encore une fois, une énigme, une enquête qui n'a pas abouti. On sait qu'en matière criminelle, le moindre détail peut tout changer. Donc, si quelqu'un sait, si quelqu'un a entendu ou vu quoi que ce soit dans cette histoire, à l'hiver 2016, en Corse, près d'Ajaccio, eh bien, il pourra se manifester ce soir.
Bon, bah écoutez, ce sera avec plaisir. Merci une nouvelle fois à Benjamin. Pas de secret particulier sur le plan criminel à nous révéler, Benjamin Sportouche.
Je ne sais pas.
Maintenant, je sais.
Pour être fidèle à ma notoriété.
Agnès Bonfillon fait son entrée dans le studio. Elle va nous présenter le flash dans une seconde.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
Il est 14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
Dans une heure maintenant, le cortège funéraire traversera le pont Alexandre III en direction des Invalides. C'est là, à 16h30, qu'aura lieu l'hommage national à Maxime Blasco, le caporal chef de 34 ans, est mort au combat il y a 5 jours au Mali. Sa compagne, Alexia, va demander à Emmanuel Macron l'autorisation de se marier à titre posthume. Le couple a un petit garçon de 8 ans. Comme prévu, Emmanuel Macron justement a installé ce matin une commission sur le complotisme, un groupe d'une quinzaine d'universitaires et de personnalités présidées par le sociologue Gérald Bronner, est chargé de faire d'ici à la fin de l'année des propositions face à l'emprise des théories complotistes et de la désinformation dans le débat public. Le magazine Valeurs Actuelles, condamné pour injures racistes, il y a un an, l'hebdomadaire ultra-conservateur avait publié un récit dépeignant Daniel Obono en esclave. La députée de la France Insoumise avait immédiatement porté plainte. En Tunisie, pour la première fois, c'est une femme qui est chargée de former un gouvernement. Le président Kais Saied a désigné Najla Bouden, sachant que ce poste a désormais beaucoup moins de poids. Le chef de l'État, je vous le rappelle, s'est arrogé les pleins pouvoirs la semaine dernière. En Allemagne, rien n'est officiel après la victoire d'une courte tête des sociaux-démocrates aux législatives. Si une coalition est faite, c'est a priori le chef du parti, Olaf Scholz, qui deviendra chancelier. Mais d'ores et déjà, Angela Merkel, dans un communiqué, félicite celui qu'elle voit légitimement comme son successeur. La météo. Au fil des heures, le temps va être beaucoup plus sec. Sur le pourtour méditerranéen, Mistral et Tramontane vont permettre un ciel bien dégagé. Et demain, c'est le retour d'un temps calme et ensoleillé, une fois les brouillards matinaux dissipés. En revanche, attention, le matin, la fraîcheur s'installe sur toute la moitié nord. Il fera 6 à Auxerre et Chaumont, 7 à Metz, 8 à Belfort et Lille, 9 à Tours, 10 à Paris, 13 à Montpellier ou encore 19 à Ajaccio. Là, ça se réchauffe évidemment dans le sud. Le résultat des courses à Argentan. Il fallait jouer le 12, le 5, le 9, le 10 et le 16. Le 12, le 5, le 9, le 10 et le 16. Il est 14h03 sur RTL. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Praud.
Cher Agnès, hier à cette heure-là, vous m'annonciez que vous aviez joué à l'Euromillion.
Oui. Non, j'allais jouer. Chose promise, chose due, j'ai joué, j'ai perdu.
Donc les 143 millions d'euros ne sont pas à vous.
Non.
Bon. Ils ont été gagnés,
pas du tout.
Ils ont
163
personne.
Millions vendredi, je crois.
Et vous avez encore une chance.
Je vais essayer.
Est-ce qu'Agnès partagera cette fois ou pas?
Oui, promis, Damien. Depuis hier.
Merci, Agnès.
C'est terrible.
14h03.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Un hommage sera rendu au caporal-chef Maxime Blasco tout à l'heure, aux Invalides à 16h30. Il est décédé, vous le savez, dans une opération de reconnaissance au Mali ce vendredi 24 septembre. Il est le 52e soldat français décédé au Mali depuis le début de l'opération Barkhane en 2013. Il était originaire de Grenoble. Il a 34 ans. C'est un tireur d'élite du groupe Commando Montagne. Il a succombé à ses blessures survenues lors d'une opération au cours de laquelle il a été grièvement blessé par un tireur djihadiste en embuscade. Et jeudi, il y aura un autre hommage qui lui sera rendu à Vars, en Isère, par ses frères d'armes du 7e bataillon de chasseurs alpins. Je pense que tout le monde sera d'accord pour penser à lui, penser à sa famille. Combien de gens sont capables aujourd'hui de s'engager pour nous défendre, pour nous sauver, et les militaires et les gens gendarmes, les policiers parfois méritent tout notre respect parce qu'ils jouent leur vie parfois au quotidien. On est avec Laurent. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour Pascal.
Qui habite l'Eure-et-Loire.
Je suis dubitatif à titre personnel et respectueux par un autre côté dubitatif. Je vais vous parler d'une époque que les moins de 20 ans, comme disait l'autre, ne peuvent pas connaître. Moi, je me suis engagé à 17 ans, sitôt le bac en poche. J'ai considéré ça comme un sacerdoce. Il y a eu des copines, nombreuses, enfin bon, pas non plus, je n'étais pas monsieur Strauss-Kahn, hein, donc je vous rassure, mais je n'ai jamais voulu fonder famille, parce que je considérais que c'était un sacerdoce. J'étais parachutiste au départ, je me suis esquinté en sautant, donc j'ai été muté dans autre chose. Et la durée de vie de notre régiment face au pacte de Varsovie était de 24 heures. C'est-à-dire qu'au bout de 24 heures, notre régiment n'existait plus. On devait se présenter devant le régiment le plus proche, quel qu'il soit, et se mettre à sa disposition. Nous étions censés, à l'époque, ça va rejoindre les questions du RPR et du général de Gaulle qui voulait l'indépendance de la France, nous balancions les missiles nucléaires. Donc inutile de vous dire que le pacte de Varsovie nous attendait au tournant. Ils nous attendaient avec tout ce qu'ils avaient, puisqu'on était vraiment la menace principale. Donc on se payait les commandos, les obus à gaz, enfin on était censé se payer les hélicoptères de combat, enfin la totalité sur notre poire, si je peux m'exprimer comme ça. Donc je n'ai jamais voulu fonder famille. Je respecte les gens qui ont fondé famille. Moi j'ai attendu d'en être sorti pour faire ce que j'avais à faire après du côté familial. Mais j'ai toujours mis ce point d'honneur de ne pas m'engager. Je m'étais engagé par ailleurs. Voilà, c'était ma philosophie. Maintenant, je respecte. Je pense que le souhait de mariage de cette dame est totalement justifié. Effectivement, il faut que son enfant...
Je trouve que c'est très beau. Moi, j'ai été très, très touché par le témoignage. Oui. Parce que, au fond, dans un monde où les gens ne s'engagent plus, il n'y a rien de plus beau que l'engagement, peut-être. L'engagement... Oui. Que vous avez eu vous-même avec l'armée française, l'engagement dans un couple, l'engagement dans une histoire d'amour. C'est dur de s'engager d'ailleurs, c'est jamais facile.
Et l'engagement dans une vie.
Mais il y a quelque chose de noble là-dedans, et c'est vrai que le témoignage de cette femme qui en parlait et avec à la fois tellement de chagrin, tellement d'émotion et en même temps déjà
de dignité.
Oui, avec son fils, la manière dont elle a appris cela à son fils. Je trouve que c'est beau et j'imagine que cette demande sera acceptée par le chef de l'État.
Oh ben je l'espère, ouais. Je le souhaite. C'est le meilleur que je lui souhaite. C'est pas le mal que je lui souhaite, mais le meilleur que je lui souhaite parce que le mal lui est déjà arrivé.
Merci à Laurent. On va marquer une nouvelle pause et Christelle sera là également parce que son fils est militaire. Il était au Mali, il est rentré en juillet dernier et elle pourra nous raconter comment une mère vit ces moments si particuliers.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Participez au débat en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
14h10 avec Laurent Tessier.
Hommage national cet après-midi au caporal-chef français Maxime Blasco, un soldat tué en opération au Mali la semaine dernière. Il avait 34 ans. Jean-Marc Blasco, son père, a pris la parole au micro RTL de Serge Puyot.
Je vais assister au dernier départ de mon fils.
C'est très dur.
Vous allez porter la cravate de votre fils lors de cette cérémonie.
Oui, c'est en mémoire. C'est ma belle-fille qui m'a dit, il y tenait.
Cette cravate, ça symbolisera le fait que vous êtes encore proche de lui, qu'il est en vous.
Il sera toujours en moi. Il savait que j'étais fier de lui. Alors, non pas parce qu'il est commando, non pas parce qu'il a fait tel ou tel acte. C'est le fait de dire, il est droit, il est respectueux. Chapeau bas.
Plusieurs fois décoré, le caporal-chef Maxime Blasco avait reçu en juin la médaille militaire pour la valeur exceptionnelle de ses services.
Christelle est avec nous. Bonjour Christelle.
Bonjour Pascal.
Je disais que vous êtes la mère d'un militaire qui était au Mali.
Oui, oui, oui. Il est rentré la fin juillet.
Il est resté combien de temps au Mali ?
Il est parti début mars.
Quand il part au mois de mars au Mali, toutes les familles savent où il est ?
Non. non, en fin de compte, on sait que part au Mali, mais après le camp de base, il le sait une fois sur place. En fait, il sait dans quel camp il va être, vers lequel camp il va être dispatché, on va dire, enfin réparti, si vous voulez. Mmh. Mais avant de partir, non, il ne sait pas dans quel camp il sera.
Et quand il part pour le Mali, il vous le dit avant ?
Oui, il me l'a dit. En fait, il était en mission au Liban et il m'a dit il y a des, on peut se porter volontaire pour partir au Mali et il s'est porté volontaire.
Il est marié, votre fils ? Il a une famille ?
Non, il a 27 ans, il est célibataire.
Quand il vous dit ça, vous réagissez comment ?
J'étais surprise parce que je savais ce qui était arrivé précédemment au Mali, parce que je savais que par rapport au Liban, c'était plus une mission à risque.
52 soldats sont décédés, je le rappelle. Hein.
Oui, oui, oui.
Depuis 2013.
Mais bon, après, oui, après, c'était son choix. Je pense qu'il s'est engagé. Déjà, il est parti vers l'armée parce qu'il ne trouvait pas d'orientation professionnelle, faut le dire. Hein, ça a été vraiment... C'est moi qui lui ai dit, en plus, essaye de faire la formation pour être sous-officier. Ma grande surprise, il a réussi tous les examens. C'est pour ça que je suis très fière de lui, parce que franchement, il n'avait pas le caractère. C'est vrai que quand on le voit, on ne pensait pas qu'il aurait pu réussir, mais je suis très très fière de lui. Je lui ai déjà dit beaucoup de fois. Et il a réussi son concours, il est passé sergent, donc, voilà. Quoi. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça lui plaît. C'est un métier qui lui plaît. Je pense qu'il se... Enfin, comment dire, il arrive à devenir... je n'ai même pas le terme, je ne pourrais même pas vous le dire, mais je pense que c'est quelque chose qui lui apporte énormément.
Il est resté donc 3 mois, il est parti en mars, il est revenu en juillet, c'est ça ?
Voilà, fin juillet, bon, oui.
Généralement, c'est, on reste 3 mois, 4 mois, je ne connais pas...
C'est 3-4 mois.
D'accord.
C'est 3-4 mois.
Oui. Durant ces 4 mois, vous avez des contacts avec lui ?
Oui, par WhatsApp.
Et donc des contacts réguliers ou il espace volontairement les contacts pour ne pas vous inquiéter peut-être ?
C'est moi qui lui ai demandé à chaque fois qu'il bougeait, quand il a pris l'avion, quand il est atterri, quand il s'est déplacé. À chaque fois, je lui demandais de m'envoyer des nouvelles. Parce que je voulais toujours savoir où il était et ce qui se passait. Donc dès qu'il avait la possibilité de me dire, de donner des infos, il le faisait parce qu'il savait que j'avais besoin de ça. De savoir exactement ce qui se passait, c'était important.
Il a 27 ans, il est encore jeune hein, pour la mère que vous êtes. Forcément, il y a encore un lien qui est très fort. Parfois, le lien peut se distendre avec les années, mais lorsque vous êtes une jeune mère encore, vous avez 50 ans, hein, je peux dire votre nom, donc il y a quelque chose encore de très présent, j'imagine, dans l'éducation de votre fils. Est-ce que, quand il est au Mali, en permanence, vous êtes inquiète ?
Ben, oui, parce qu'on suit toujours les informations, on écoute toujours ce qui se passe. Je crois qu'on est toujours à l'écoute de la moindre information, de la moindre attaque, tout ce qui se passe. Oui, on vit pas vraiment notre vie, en fin de compte. On attend de savoir comment se passe la sienne pour vivre la nôtre. Voilà. Si lui va bien, moi j'irai bien. En fin de compte, c'est comme ça. C'est une attente.
Et quand il est revenu du Mali, vous l'avez vu depuis le mois de juillet ?
Oui, il a eu 3 semaines de permission. Il est revenu une semaine avec moi. Puis après, il a été voir ses amis un peu à droite, à gauche.
Et là, il évoque ce qui se passe sur le terrain ?
Si je ne lui pose pas de questions, je ne saurais pas, parce qu'il ne me racontera pas. Mais après, s'il a envie de parler de choses, il m'en parlera, mais je ne questionne pas trop. Je ne veux pas trop qu'il me dise... Je pense qu'il y a une réserve là-dessus.
Et en ce moment, il est où là ? C'est durant ce mois de septembre ?
Alors, il est à Versailles, en mission Vigipirate.
À Versailles ?
Oui, alors, je lui fais un gros bisou. Je sais qu'il ne m'entend pas parce que je sais qu'il est en groupe qui travaille. Mais il m'a envoyé quelques photos tout à l'heure. Et voilà, il est à Vigipirate jusqu'au début octobre. Et après, il s'en va en manœuvre une quinzaine de jours.
Donc, vous avez combien d'enfants, Christelle ?
J'ai 3 enfants.
Et vous avez combien de garçons ?
Il s'appelle Maxime, hein, comme malheureusement le monsieur qui est décédé. Maxime a 27 ans, j'ai une fille de 21 d'années et un petit dernier de 8 ans.
De 8 ans ?
Voilà. Oui, mon petit dernier.
Ah oui, effectivement. Oui. Donc il y a eu des grands écarts entre
voilà,
les...
Voilà, oui. Et le père de Maxime a été militaire pendant 15 ans. Donc il a été un peu aussi mis... mis dans le bain, on va dire, quand il était petit.
Bien sûr, souvent. Oui. Bah, de la même manière que souvent les fils, les enfants de journalistes font des journalistes, les enfants de médecins font des médecins, et les militaires font des fils de font des militaires. C'est souvent, oui. Quoi. Pas toujours, bien sûr, c'est pas une règle. Mais parfois, on fait le métier de ses parents parce qu'on a été en proximité pendant tellement d'années que. Bah, merci beaucoup, Christelle. C'était bien de vous écouter. Vraiment, merci. Merci de votre témoignage. Il est 14h17.
Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous sommes avec Laurent. Bonjour Laurent, qui voulait intervenir. Peut-être Hélène est là également. Pardonnez-moi. Hélène, bonjour.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous voulez rendre hommage peut-être au caporal-chef Maxime Blasco, dont la mémoire sera honorée à 16h30 aux Invalides.
Oui, tout à fait. Je pense à... à sa famille, à son épouse, à son fils, à ses parents. Voilà, c'est assez difficile quand on a un mari, un fils militaire. Et je comprends leur douleur. J'ai trouvé son épouse extrêmement digne. Et voilà, je pense à elle. Et quand on est marié avec un militaire, c'est également un engagement, je pense.
Je suis d'accord avec vous, Hélène.
Voilà, moi j'ai un mari militaire également, et c'est vrai que c'est ces gens-là qui s'engagent pour nous. Moi, je trouve ça très beau, très noble. Et quand on se marie avec un militaire, on s'engage aussi soi-même, même si on n'est pas soi-même militaire. Mais moi, pour ma part, j'ai une grande fierté à avoir un mari militaire. Je me dis que de nos jours, il y a peu de gens qui vont prendre un tel engagement en se disant que quand ils signent en bas de leur contrat, qu'ils peuvent donner leur vie pour la France. Et je trouve que...
Votre mari est parfois sur des missions périlleuses ?
Alors, il l'a été, plus maintenant. Après périlleuse, je ne sais pas. Je pense que je n'ai pas toujours tout su. Mais il n'est pas allé en Afghanistan, par exemple, où je pense que ça devait être très périlleux.
Et j'imagine que vous avez peur lorsque il est sur des endroits, ou lorsqu'il était sur des endroits du globe où il pouvait être en danger.
Oui, alors après on y pense, mais. Faut vivre aussi, on pense pas à ça toute la journée, mais oui, c'est un petit quelque chose qui reste dans un coin de la tête parce que c'est un risque, parce que ça peut arriver effectivement.
Ben merci Hélène, merci de ce témoignage, et c'est vrai, je le disais tout à l'heure, je pense que tous aujourd'hui, on peut penser à ces hommes qui s'engagent pour nous, parce que c'est pour nous que M. Blasco était au Mali. C'est le 52e soldat qui est décédé. On fait tous des professions où nos vies ne sont pas en danger. Et il y a des gens qui, au nom de l'engagement, au nom de... comment dire... de ce en quoi ils croient, vont jusqu'à prendre l'uniforme et perdre la vie. Donc Monsieur Blasco était dans ce cas-là, et je pense que chacun aura une pensée pour lui aujourd'hui. Le débrief, il est 14h23.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Éric Zemmour n'est toujours pas candidat, mais les rédactions s'agitent. Son ascension dans les sondages est une réalité. 13 à 14% d'intention de vote au premier tour de la présidentielle. Dernière étude d'Aris Interactive. Et nous avons fait appel à Benjamin Sportouche, chef du service politique de RTL.
Benjamin Sportouche, pour la première fois de la saison, nous a rejoint.
Le retour.
C'est un personnage récurrent des auditeurs ont la parole. Généralement, il est d'une prudence extrême, donc il n'ose pas dire ce qu'il ne sait pas.
Et je peux vous dire que Benjamin Sportouche était chaud bouillant en rentrant dans le studio.
C'est un peu le Lionel Messi, d'une certaine manière, de la politique pour nous.
Ah bah, oui, donc, il était temps qu'il se réveille, oui, il a mis
donc,
un mois.
Donc il est là, alors est-ce qu'il va marquer un but ?
Il attendait que Messi marque.
Mais voilà, donc vous pouvez lui poser des questions.
Je m'échauffe. Alors Éric Zemmour, fait-il de plus en plus peur ? Souhaitez-vous qu'il soit candidat ? Oui, pour Charles.
Il répond aux préoccupations des Français. Ses propos résonnent dans le vécu quotidien des honnêtes gens. Il dit les choses sans détour et avec courage. Et depuis des années, il est en train de ringardiser le discours des politiques professionnelles.
Thierry soutient aussi le polémiste.
Bien sûr qu'il peut y arriver.
Pensez qu'il peut être président de la République ?
Il sera président de la République.
Ah oui, donc regardez là, c'est une grosse tête, là.
Mes motivations, c'est que c'est quelqu'un qui parle vrai. Ma fille qui a 17 ans, qui s'appelle Chiara, pour le coup, d'accord ?
Bon, ah, on a bah il va Chiara, falloir qu'elle change de prénom si Éric Zemmour est président de la République.
Des propos que ne partage pas Muriel, c'est même l'incompréhension.
Ce qui est atterrant aujourd'hui, c'est qu'on lui fasse une telle place. Bah, moi, je ne comprends pas. Je veux dire, il alimente le débat. Mais il alimente le débat pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien derrière, il n'y a rien à côté.
Mais aujourd'hui, mesdames, messieurs, une rencontre exceptionnelle. Benjamin Sportouche et Monsieur Boubouk, nous en avons rêvé. La voici.
Ce qui est très élégant et très chic.
Ah, il reste en régie. Exactement. Vous voulez qu'il vienne, Benjamin ?
Non.
Vous voulez qu'il vienne en studio ?
Je le vois très bien. Là, je le fais quand même identifié.
Le studio est quand même réservé à...
aux stars.
Voilà.
Ah, bah, c'est gentil. Merci beaucoup.
Et monsieur Boubouk, alors il n'est pas non plus à la cave.
Bon, sinon, c'est vraiment porte ouverte dans les auditeurs à la parole. Cyprien Sini avait quelque chose à nous dire.
Attendez, qu'est-ce qui se passe ?
Il y a Cyprien Sini qui vient.
Mais pourquoi vous venez
nous
dire qu'est-ce qui se passe ?
Je voulais savoir quel est le temps à Marseille ce week-end.
Julien Courbet nous a livré son analyse sur Éric Zemmour.
On va parler d'Éric Zemmour. Ah, jusqu'où ira-t-il ?
Jusqu'à chez lui, hein, je pense, pour déjeuner comme tout le monde à midi.
Il ira peut-être jusqu'à chez vous, surtout.
Bon, malgré toutes nos tentatives, Benjamin Sportouche n'aura jamais dit aujourd'hui dans l'émission.
Eh bien, on ne sait pas.
Eh oui, alors, mesdames, messieurs, c'est un grand jour. Voici ce que chantait Benjamin en sortant du studio.
Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais.
C'était un plaisir, cher camarade. Jean-Alphonse, c'est une émission particulière parce qu'elle annonce l'émission d'M6 ce soir.
Absolument. Appel à témoins ce soir à 21h sur M6. Et les enquêteurs aimeraient bien savoir, comme Jean Gabin, parce qu'ils aimeraient bien savoir qui a tué Vincent Dorado, 33 ans, professeur de collège, abattu devant chez lui à l'hiver 2016 en Corse. Donc on fait le point sur l'enquête. Et puis ce soir, appelez sur M6, si vous avez des témoignages sur le sujet, le moindre détail peut faire basculer une enquête.
Eh bien, rendez-vous dans quelques minutes. Et nous, avec Laurent et toute l'équipe, Damien Béchiot, mais toute l'équipe des auditeurs, on vous dit à demain.
À demain.